Ora 11 și 19 minute la RFI. Bună dimineața tuturor, sunt Mihaela Dedeoglu și vă invit să rămâneți alături de noi în această oră în care vom vorbi despre Muntele Vrăjit. Thomas Mann, 150 de ani, iată o aniversare a Institutului Goethe din București, o aniversare realizată cu desene și monotipii de Matei Șerban-Sandu, o expoziție pe care o puteți vedea la pavilionul Goethe din București. Pentru a vorbi despre această expoziție, sunt în studioul nostru, evident, artistul Matei Șerban-Sandu, căruia îi mulțumesc foarte mult pentru vizită.
Eu mulțumesc pentru invitație.
Și Joachim Umlauf, directorul Institutului Goethe din București. Bună dimineața și mulțumesc!
Bună ziua, bonjour!
Bonjour! D'ailleurs, nous avons déjà l'habitude de parler en français, donc on va continuer nos bonnes habitudes, parce que moi, mon allemand, malheureusement, est resté au niveau de l'école primaire. Pardonnez-moi! Voilà. Donc, je vais commencer avec vous, monsieur le directeur. Parlez-moi un petit peu de cet anniversaire et comment l'Institut Goethe se prépare et s'est préparé pour Thomas Mann.
Oui, bien sûr. Merci de me passer la parole. Merci pour l'invitation. Et il est vrai, on a souvent des jubilés, des célébrations, de grands personnages. On a eu, par exemple, l'année passée, on se rappelle, Franz Kafka. Il y a quelques années, Beethoven. Maintenant, c'est Thomas Mann. Et notre idée, c'est toujours comment on peut actualiser l'artiste, c'est-à-dire de ne pas le présenter dans son contexte historique, mais de le rendre actuel. Et je suis certain que vous allez partir, Mathieu, dans un instant sur cette forme d'actualisation. Mais il faut dire que Thomas Mann, qui est une des grandes figures de la littérature allemande, avec Goethe, bien entendu, ce grand écrivain, prix Nobel de la littérature.
En 1929.
C'est ça, pour les Buddenbrooks. Mais c'est aussi une figure emblématique puisque il a caché son homosexualité. Ou plutôt son bisexualité, puisqu'il était marié, il avait beaucoup d'enfants et il a fondé une famille très littéraire avec d'autres écrivains comme Erika Mann, comme Klaus Mann, qui sont devenus aussi de grands écrivains. Donc c'est une sorte de dynastie, si vous voulez, littéraire. Mais ça, pour ça aussi, il est très intéressant aujourd'hui. Donc un écrivain très bourgeois, avec une famille bourgeoise, avec des enfants, mais en même temps avec des penchants bisexuels, homosexuels, ne vivant pas entièrement cette homosexualité, mais qui ressurgit dans son œuvre. Vous avez par exemple La mort à Venise, bien entendu, ce fameux texte qui parle de cette fascination pour les jeunes hommes, et puis dont on a été tourné un film de Visconti, notamment. Donc, c'est un personnage très emblématique, intéressant pour nous, et aussi politiquement, si vous voulez, Michael, parce que dans ce temps-là où on est confronté à des idéologies différentes, à la montée du populisme de nouveau, Thomas Mann a fait, si j'ose dire, un chemin inverse, parce que étant au début un écrivain de droite, très sceptique après la Première Guerre mondiale quant à la Première République allemande, donc plutôt faisant l'éloge de la monarchie et être antidémocratique face à la montée des populismes en Allemagne, à la montée du national-socialisme, il est devenu démocrate. Il a écrit des textes démocratiques, il s'est exilé pendant la Deuxième Guerre mondiale, il a tout mis en œuvre depuis les États-Unis, par la radio par exemple.
Par exemple, hein, oui.
Par la radio par exemple, de lutter, de se battre contre le national-socialisme. Et en cela, déjà politiquement, c'était une figure très intéressante pour nous, et aussi artistiquement, bien entendu. Mais peut-être on va en parler un tout petit peu plus tard.
Pourquoi la montagne magique? De ce Muntele Vrăjit?
Am convenit cu Ana Răpădatu, care a fost curatoarea expoziției, să îmi aleg una dintre operele scriitorului. Și am ales Muntele Vrăjit pentru că o citisem în tinerețe și acum, revenind la text, am gândit că pot face o expoziție plecând de la cei doi filozofi, Nafta și Settembrini, care de-a lungul cărții au dialoguri în contradictoriu. Cei doi filozofi creează tensiunea, să spunem, tensiunea cărții, pentru că tot timpul au păreri contradictorii, la prima vedere, zic eu, pentru că toate părerile se întâlnesc în final în încercarea noastră de a fi oameni mai buni.
Deci ați recitit Muntele Vrăjitorilor.
Da.
Cred că l-am citit în liceu. L-ați recitit.
Da. Și atunci am ales două tehnici diferite, pentru că sunt cele două voci ale filozofilor care se contrazic.
Uh-huh.
Una este monotipia și cealaltă desenul în pensulă în tuș.
Foarte interesante lucrări, lucrările dialoghează foarte frumos, panotarea mi s-a părut foarte frumoasă. Poate explicăm puțin și tehnicile, pentru că desen în pensulă vedem mai rar, e adevărat, nu?
Desen în pensulă chinezească, cum este cea
da.
Pentru caligrafie.
Da, o vedem mai rar la noi, nu prea, în România n-am prea văzut. Nu.
Da, și am desenat pe o hârtie de bumbac care nu permite reveniri și greșeli.
Voiam să vă întreb, da.
Da, și atunci multe dintre desene au fost făcute de mai multe ori,
uh-huh.
cum e și normal. Și
un format foarte special. Ce format este acesta al desenelor?
Formatul orizontal se potrivește cu ideea de somn, pentru că toate personajele dorm sau sunt într-o stare de reverie sau de-abia s-au trezit în așteptarea unor, să zicem, certitudini, mm. care, bineînțeles că nu vin. Formatul acesta se potrivește cu ideea de repaus, pentru că în carte viața este văzută din poziția orizontală, fiind vorba de un sanatoriu. Oamenii stau mult în șezlonguri, stau întinși și atunci începem să ne întrebăm unde este realitatea și unde este visul, de unde până unde încep și se termină lucrurile astea.
Desenele sunt puse în partea superioară, lucrările sunt toate puse câte două, deasupra, în partea superioară este desenul, în partea de jos monotipia. Ce este o monotipie?
O monotipie este, ca să fac o metaforă, e ca un desen pe nisip. Deci se ia o placă metalică sau din alt material și cu cerneală tipografică, cu cerneală de gravură, desenăm. Și în momentul în care considerăm că e gata desenul, se trece prin presă. Asta conferă imaginii o curățenie și o, cum să spun, specificul gravurii apare. Deși avem doar un singur exemplar. Eu am pornit la toate de la un fond negru, deci se cheamă manieră neagră, atunci când lucrez cu lumină pe un fond întunecat.
De aceea, cele de deasupra sunt pe un fundal alb, vedem doar desenul cum se conturează, iar cele de dedesubt sunt într-un acest fundal negru, un dialog. Moi, j'ai trouvé absolument remarquable cette exposition. Je ne sais pas ce que vous en pensez.
Absolument, on est très fiers d'avoir convaincu Matthieu de faire cette exposition, puisque, mm-hmm. comme je disais au début, notre but, ce n'était pas de présenter seulement Thomas Mann, mais de créer des liens culturels en demandant justement à un artiste roumain de réputation de s'occuper de Thomas Mann et de donner sa version actuelle de son vue hein, de sa perspective sur cet artiste-là. Et bien entendu, La montagne est magique, ce roman, est aussi très emblématique parce qu'il décrit un monde qui est en train de disparaître. C'est le monde avant la Première Guerre mondiale. Le livre se termine justement avec le début de la Première Guerre mondiale et il décrit quelques années qu'un jeune nommé Frank Castorf passe dans un sanatorium dû à une maladie des poumons et ses rencontres qu'il fait là. Donc c'est un monde qui est en train de disparaître, qui est décrit de l'aristocratie, de la bourgeoisie d'avant la Première Guerre mondiale. Donc encore une fois, un roman très intéressant, avec beaucoup, beaucoup de références philosophiques d'ailleurs, parce que dans presque chacun de ces grands romans, Thomas Mann a réfléchi littéralement sur des philosophes, sur Nietzsche, sur Schopenhauer, plus tard on va peut-être revenir à Schoenberg et d'autres, et Adorno et à d'autres philosophes.
Lucrările pe care le-ați făcut, nu știu dacă reprezintă anume întâlniri, anume personaje, dacă le putem recunoaște în aceste lucrări.
Recunoaștem tonul mai degrabă, tonul mai luminos, mai renascentist al lui Settembrini și tonul mai întunecat al lui Nafta. Dar nu este vorba despre o ilustrație mot-a-mot, pentru că nu se
categoric
mai face de mult tipul ăsta de ilustrație, să zicem, din secolul XIX. Dar am găsit personaje care dorm și pe stradă, unele sunt inspirate, nu știu dacă v-ați dat seama, sunt inspirate de oamenii străzii care dorm. Mi-au fost modele.
Le-am aici, le-am fotografiat, am vizitat expoziția, le-am sub ochi.
Mi-au fost modele, alții sunt, alte personaje sunt imaginare, altele pornind de la oameni din viața mea pe care am văzut dormind.
Toate sunt lucrări foarte recente.
Recente, am început în ianuarie.
A, deci mai mult decât recente.
Da.
Dacă putem spune așa.
Sigur că n-au intrat toate lucrările în expoziție, am făcut o selecție. Vă spuneam că au mai fost și unele ratate și pentru un artist asta nu e un motiv de disperare. Din contră, de multe ori exact din lucrările ratate învățăm foarte mult.
Je pense que c'est très important ce que Mathé dit, parce que ce qu'on ne cherche pas, c'est de faire illustrer un roman, mais on cherche la congénialité, c'est-à-dire un artiste qui jette un regard et qui produit des œuvres original, n'ayant pas l'idée d'illustrer le contenu du roman, mais être une sorte de source d'inspiration.
În procesul dumneavoastră de lucru, cartea a venit, o aveați deja sau ați recitit-o pentru această expoziție, ați lăsat-o să se așeze puțin, adică imaginez că o astfel de e greu de conturat ce vrei să faci când primești o astfel de propunere, nu?
Păi, a trebuit să mă rezum la un aspect, cel al somnului, pentru că altfel cartea este foarte cuprinzătoare din toate punctele de vedere. M-am rezumat la ideea de somn și dacă presupunem că în sanatorii au dormit acolo, am spune că venirea primului război mondial ar însemna trezirea, nu? Dar iată că, de fapt, nu e o trezire, ci intrarea într-un coșmar, adică într-o realitate ireală.
Ați mai făcut astfel de proiecte legate în tandem cu literatura sau inspirate din anumite opere literare?
Nu mi-amintesc acum, dar tot timpul m-am raportat.
Literatura e o sursă de inspirație pentru dumneavoastră.
Chiar și prieteni de mei zic, că sunt literar. Adică imaginile mele au și o poveste.
Mm.
Ceea ce este destul de dificil, pentru că arta nu trebuie să povestească ca literatura, ci prin propriile mijloace.
Există un, cred că este ultima, aceasta este ultima din, din serie, acest tandem. Pe mine monotipia aceasta m-a făcut să mă gândesc la cu totul altceva când am văzut-o, la un roman grafic.
Da.
Are ce, personajele de aici au ceva de, de roman grafic?
Au ceva de roman grafic pentru că încercând să fiu aproape de studenții mei, sunt tot timpul curios ce văd ei și ce apreciază și vând nevând am fost influențat pentru că am descoperit autor de bandă desenată.
Ah, spuneți-mi! Cine?
Pe, bine, ăsta, din copilărie, Hugo Pratt.
Ah, Hugo Pratt, da.
Corto Maltese.
Corto Maltese.
Da.
Grand classic.
Da.
Așa?
Am acum
un lapsus.
Da.
Lapsusul pe românesc, așa, nu lapsusul francezesc, care este, știați că lapsusul, paranteză, lapsusul românesc nu e același lucru cu lapsusul în franceză? Na, la noi se spune atunci când uiți un cuvânt, la ei se spune atunci când, fără să-ți dai seama, folosești un cuvânt în locul altui cuvânt. Da. Deci e un pic diferit. Așa.
Da.
Dar deci Hugo Pratt
m-a influențat.
Da.
Grafica.
Se simte, iar în aceste două lucrări în tandem, pentru mine sunt preferatele mele, vă spun sincer. Ideea panotării a venit de la început, ați știut că așa
va fi.
Că veți lucra în două tehnici diferite?
Da, și două tehnici diferite și două registre diferite, dar care intră într-un dialog.
Je trouve vraiment que c'est une des plus belles expositions que j'ai vues depuis la dernière année. Vă spun foarte sincer, da, foarte, foarte coerentă și foarte în simplitatea ei de expresie, extrem de complexă, dacă mi este permis să spun așa. Donc, bravo, toutes mes félicitations.
Merci, rendre l'honneur à ma collègue Oana Lapadatu qui a contacté Matei, qui a eu l'idée, parce que ça c'est aussi un tout petit peu la culture, ce n'est pas seulement de lier, pour ainsi dire, dans ce cas-là, la culture allemande à la culture roumaine, à l'expression artistique roumaine, mais il faut aussi avoir l'instinct, trouver les bons partenaires, les gens inspirés, les gens valables pour faire cela, et ça c'est tout un travail qu'on fait depuis des années, et je me réjouis beaucoup de cette exposition et du succès qu'on a, et de la qualité.
Se vede la pavilionul Goethe de pe bulevardul de pe calea de
Rubens.
Voilà. Revenons à Thomas Mann, si vous voulez bien.
Ouais.
Et parlons un peu de la modernité de Thomas Mann. Qu'est-ce qu'on a comme héritage aujourd'hui de l'écriture de Thomas Mann, si on doit le remettre dans l'actualité?
Si on doit le remettre à l'actualité, bon, l'œuvre de Thomas Mann est très large. Il a écrit beaucoup de romans différents. Et par exemple, on aura aussi une série d'ateliers musicaux et workshops et un concert à la fin du mois de mai, organisé en coopération avec UNMB, l'Université nationale de musique de Bucarest, où on a invité un musicien allemand de réputation pour justement faire des ateliers sur la musique de Arnold Schönberg.
Mm.
Maintenant, on peut se poser la question
quel lien,
qu'il faut dire que Thomas Mann a connu Arnold Schönberg en exil aux États-Unis, où ils étaient réunis, Schönberg, mais aussi Theodor Adorno, le grand philosophe de l'école de Francfort. Et dans son œuvre, dans son grand roman Dr. Faustus, qui bien entendu fait référence au grand personnage de Goethe, Faust, qui est peut-être le personnage même de la modernité, parce que c'est le pacte avec le diable qui fait que cet personnage peut vivre plus longtemps, qui peut aussi avoir des expériences inouïes. Mais ce roman-là est emblématique pour la modernité de l'art, puisqu'en fin de compte, il reflète le fait que l'art moderne est libre, c'est-à-dire presque entièrement libre, à déconstruire les méthodes, les traditions classiques, traditionnelles. Et il prend, par exemple, comme exemple, la musique de Schoenberg, puisque Schoenberg a commencé bien inventé, je cherche le mot français, la dodécaphonie, si je ne me trompe pas. Donc, ce système d'une musique de 12 notes qu'il faut jouer dans une suite à définir. Et il en a pris exemple pour expliquer ce que c'est la liberté de l'artiste dans la modernité, c'est-à-dire de se donner lui-même un système, c'est-à-dire de ne plus être obligé de suivre. Et quand on pense à la peinture, par exemple, de ne plus suivre l'idée de la peinture naturaliste ou d'une peinture qui impose des règles à l'artiste, mais c'est l'artiste qui se cherche lui-même sa liberté, mais dans un système. Et ça, c'est très important. Mmh. C'est-à-dire, il dit, on a la liberté, on a quasiment la liberté totale, mais il faut se fixer des règles en tant qu'artiste. Et c'est ça la liberté de l'artiste, de se fixer des règles, mais sans règles ne peut pas exister la liberté. Ça, c'est un tout petit peu ce qu'on retrouve, par exemple, dans ce roman fantastique, le Dr Faustus, un des romans qu'il a écrit plus tard. Mais il y a beaucoup d'autres livres qui sont d'une grande modernité, notamment le premier grand roman, Les Buddenbrooks, qui parle d'une famille dans le nord de l'Allemagne, et des générations successives, une décadence, et puis, bon, qui reflète, comme je l'ai dit, tout à l'heure sur l'œuvre de Schopenhauer et d'autres philosophes. Mais il y a aussi un fait qui est très important dont on parle aussi aujourd'hui, c'est une certaine dispute entre Thomas Mann et son frère Heinrich Mann. Alors Heinrich Mann était le frère aîné de Thomas Mann et d'ailleurs de son vivant un écrivain aussi important que Thomas Mann. Heinrich Mann était très francophile et il était convaincu que la littérature avait un rôle à jouer dans la société en décrivant des faits sociétaux. Il a écrit un grand roman sur Henri IV, par exemple, et Thomas Mann entrait dans une grande dispute avec son frère parce qu'il réservait le rôle de la littérature et de l'art en général pour des questions esthétiques. Il ne voulait pas trop frôler la vie quotidienne avec ce qu'il faisait. Et c'est devenu une très, très intéressante dispute parce que ça reflétait en même temps une sorte de conflit permanent entre la France et l'Allemagne qu'on peut décrire par les mots de culture et civilisation. Mmh. C'est-à-dire la France plutôt orientée vers un rôle de la littérature pour la civilisation, pour le progrès, pour la société, d'une part, et de l'autre part, l'artiste allemand plutôt venant de l'irrationalisme, du romantisme, en décrivant le rôle de cet art étant loin de la société. Et c'était très intéressant, cette argumentation, puisque, comme j'ai dit tout à l'heure, après Thomas Mann, dans les années 20 et 30, face à la montée du national-socialisme, il s'est reconverti aussi par rapport à cette question-là. Mm-hmm. Parce qu'il a vu que les artistes avaient un rôle à jouer dans la société. Il ne pouvait plus s'abstenir à ne pas être politique et à continuer à être dans cette tour d'ivoire de l'art.
Pardonnez-moi cette question, mais est-ce que dans toute sa famille a basculé de ce côté, ou c'était le seul qui avait changé d'opinion politique et qui s'est réveillé, si on peut dire comme ça?
Non, toute la famille était famille de, aujourd'hui on dirait des outsiders. Bon, mm-hmm. C'était aussi un fils homosexuel, qui d'ailleurs Klaus Mann, qui s'est suicidé après la fin de la Deuxième Guerre mondiale sur la Côte d'Azur. Il était aussi toxicomane. Une fille, Erika, qui avait beaucoup joué dans les cabarets artistiques de Berlin des années 30, par exemple dans les années 20 et 30. Donc toute la famille est devenue une fille moderne. Vous savez, donc comme j'ai dit au début, la famille traditionnelle bourgeoise évitait de montrer les différences, par exemple homosexualité, des choses comme ça. Mais les années 20, les années 30 ont fait que ces familles ont éclaté d'une certaine façon. Donc, de nouvelles formes de vie ont émergé. Et ainsi, cette famille reflète, si vous voulez, un tout petit peu aussi le développement de la société au XXe siècle et en Allemagne.
De recitit, deci, Muntele Vrăjit și Thomas Mann, de ce nu? Cu ce idei ați rămas din relectura lui Thomas Mann? Era pentru prima oară cu citea sau ați citit-o ca toți probabil în liceu, nu?
Că în făcea liceu. Făcea
parte, liceu, cred. Dacă nu era din lecturile obligatorii, oricum era...
Nu era.
Era în bibliotecă, că noi suntem din aceeași generație, deci în mod sigur am avut cam aceleași cărți prin bibliotecile noastre. Așa.
Deci sfârșitul cărții m-a marcat cu începutul războiului.
Mm.
Adică, cum spunea, este moartea unei lumi și nu este o trezire către ceva bun, ci către sfârșirea care a urmat.
Mm.
Deci, avem și gravurile, de exemplu, a lui Otto Dix despre război, care vorbesc despre lumea care avea să vină.
C'est à relire, en fait.
Absolument à relire. Il y a aussi, on ne doit pas avoir peur, il y a aussi des textes tout à fait pas très volumineux, comme La mort à Venise, par exemple, ou Tonio Kröger, ou bien Félix Kroll, et aussi des romans très comiques, très amusants. Donc on trouve du tout un tout petit peu, et aussi des essais. Hein, notamment des essais des années 20 qu'il a écrit sur Goethe et la démocratie, notamment. Ça, c'était le texte où il a exprimé sa volonté démocratique. Donc, il y a des choses à relire. Et il y a pas mal de traductions également en roumain, bien entendu, qu'on peut trouver dans les librairies spécialisées.
D'ailleurs, La Montagne Magique a été traduite en très nombreuses langues, même à l'époque. Ça a été un best-seller dès le début, 100 000 exemplaires dans l'année de la...
Ouais.
À l'époque, donc ouais. Déjà 100 000 exemplaires à l'époque, c'était quand même quelque chose. Donc voilà, toutes mes félicitations, c'était un très 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 beau projet.
Merci
voilà.
Beaucoup, juste je souligne que oui. Le 19 mai à 18h, nous allons avoir un finissage à l'Institut Goethe de cette belle exposition, et on va certainement aussi s'entretenir un petit moment avec Mathé, il va nous montrer sur place ce qu'il a... fait pour nous. Merci.
Oui, on n'a pas fini. On a déjà le programme du mois de mai.
Ouais.
Alors, dites-nous tout. Qu'est-ce qui se passe encore ce mois-ci? Le Festival du film européen. Hein?
Le Festival du film européen est un projet phare de l'ICER, de l'Institut culturel roumain, qui l'organise depuis des années, mais ensemble avec les instituts culturels européens. Vous savez, on est 15 instituts culturels européens, on est réunis dans un groupe qui s'appelle ONIC, ici, qui regroupe les Roumains, les Allemands, les Français, les Italiens, les Espagnols et beaucoup d'autres. Et puis, en fait, depuis des années, ce festival, dans l'ouverture prévu, je pense, pour jeudi prochain, dans deux jours, si je ne me trompe pas. Et c'est toujours un événement, puisque ce festival n'a pas lieu seulement à Bucarest, mais aussi dans d'autres villes. Donc c'est un très beau projet qui montre aussi notre volonté de coopérer au niveau européen.
Je viens de voir qu'aujourd'hui, vous avez une rencontre avec un auteur que j'adore. Et je me souviens que ça s'est vu à l'époque où je l'avais invité au studio. Il était déjà venu dans nos studios, Jan Konefke.
Ouais. C'est un auteur allemand qui vit entre Bucarest, Vienne et Berlin.
Voilà.
Donc c'est très intéressant. Donc les
pourquoi j'ai raté
les
ça? Pourquoi il n'est pas là avec nous aujourd'hui?
Oui. Donc c'est un grand connaisseur de la Roumanie. Il écrit aussi beaucoup sur la Roumanie dans les journaux allemands. Et on l'a invité parce que ces jours-ci, on a un séminaire qui se passe à l'Institut Goethe, et ça c'est aussi quelque chose de très spécial, qu'en Europe, il y a des universités qui se lient autour des projets. Mmh. Et ça c'est un de ces projets, donc il y a plusieurs universités, dont l'Université de Bucarest, mais aussi l'Université d'Aix-en-Provence-Marseille, l'Université d'Athènes et d'autres qui se sont liés autour de la thématique de la migration et l'exil. Et donc tous les ans, il y a des étudiants et des enseignants qui se rencontrent dans une des villes de ces universités pour organiser des séminaires sur ces thématiques-là, pour échanger. Et justement, c'est dans ce cadre-là qu'on a invité, comme ce soir, Jan Konefke, puisque son dernier roman, et c'est très bien, parce que c'est vraiment, ça suit un tout petit peu notre discussion sur Thomas Mann, sur son dernier roman qui s'appelle Im Schatten zweier Sommer, donc à l'ombre de deux étés, justement porte sur un auteur autrichien très connu, très important du 19e siècle et qui s'appelle Joseph Roth. Joseph Roth, un auteur juif la Galicie, on dit, je pense.
Je crois, oui.
Ce qui est aujourd'hui l'Ukraine, bien entendu. Donc, juif germanophone qui a étudié à Vienne, qui est devenu un chroniqueur, si j'ose dire, de l'éclatement de l'Empire de Habsbourg. Il a écrit des romans très connus, Radetzky March, par exemple, et qui a vécu à Vienne, à Paris, qui a dû s'exiler, comme beaucoup d'autres, dans les années 30, en tant que juif autrichien à Paris, et qui est mort dans des circonstances très tragiques à Paris à la fin des années 30. Mm-hmm. Hein. Mais ça, il est au centre de ce roman de Jan Konefke, dont il va nous lire quelques extraits, quelques passages ce soir, hein, puisque Jan, et ça c'est intéressant, Jan a remarqué que, j'ai dit tout à l'heure qu'il vivait à Vienne, à Berlin et Bucarest, que la maison dans laquelle il vit actuellement, c'est une maison où justement cet écrivain, Joseph Roth, a passé un été. Donc ça, c'était le point de départ pour ce roman, parce que c'est une fiction, bien entendu,
bien sûr,
mais qui parle de ce hébergement de Joseph Roth en tant que jeune étudiant de philosophie à Vienne et des péripéties qui se sont développées par la suite.
Eh bien, vous lui passerez le bonjour de notre part.
Ah ben, avec le plus grand
voilà.
plaisir.
Et si jamais j'ai le temps, je passerai le voir. Ça se passe à 18h à Goethe Institute.
C'est ça.
Est-ce que vous avez d'autres recommandations à nous faire du programme du mois de mai?
Bah, disons, restons peut-être encore, si vous... Oui, mais bien sûr, il y a beaucoup de choses qui se passent à l'Institut Goethe ou bien dans d'autres lieux en partenariat. On travaille notamment beaucoup avec des galeries, parce qu'il faut soutenir les galeries d'art moderne. Donc, il y a beaucoup de galeries qui font des projets avec nous, notamment. On a beaucoup d'autres projets, mais prenons peut-être encore un projet autour concernant Thomas Mann, parce que ça arrondit un tout petit peu cette série d'événements. Nous allons organiser une autre exposition. Celle-là aura lieu au Musée de la littérature, donc, et en partenariat avec le Musée de la littérature. Le vernissage, c'est le 5 juin et c'est une exposition qui s'appelle Fréquence Mann et donc qui essaye d'ailleurs, à l'aide de la technologie moderne, avec la voix clonée, par exemple, des choses comme ça, de présenter aussi des aspects actuels, actualisés de Thomas Mann, de son œuvre et aussi de son exil, par exemple.
Voilà. Sinon, sur le site de Goethe-Institut, il y a toute la programmation en cours pour ce mois et pour les prochains mois. Mulțumesc foarte mult pentru vizita de astăzi. Felicitări pentru expoziție. Ce se va întâmpla cu aceste lucrări? Le mai duceți pe undeva, bănuiesc,
da,
nu?
Da, cred că o să ajungă și pe la Burkantal și în țară la alte centre Goethe.
Ar merita să fie itinerată, pentru că este chiar o expoziție foarte interesantă.
Nous espérons fort, je pense qu'on va y arriver, de faire donc tourner cette belle exposition pour laquelle je voudrais encore remercier Matei.
Și eu mulțumesc pentru oportunitatea de a expune la Goethe Institut și cred, sunt mulțumit de proiectul ăsta, cred că a ieșit bine. Deci mai rar spun eu.
Simt da. Că nu sunteți prea generos cu aprecierile în privința propriilor performanțe, dar aceasta este chiar o expoziție foarte frumoasă despre Muntele Vrăjit, Thomas Mann, 150 de ani, desene și monotipii de Matei Șerban Sandu la pavilionul Goethe din București. Nu ratați această expoziție, Calea Dorobanți, numărul 32. Mulțumesc foarte mult încă o dată, să aveți o după-amiază agreabilă, spor la treabă, iar noi să ne auzim cu bine mâine dimineață.